colonisation, c'est-à-dire la découverte d'une planète et puis petit à petit l'homme s'y installe, il découvre ou pas des indigènes ou des autochtones et arrête de se cracher sur le bras en parlant. On a une approche différente de l'histoire qui démarre, la planète est déjà là, ça fait 1000 ans qu'une civilisation s'est installée, etc. Moi j'aime bien, quand je pars sur une colonisation, avoir tout un système stellaire qui tienne la route. Un système planétaire aussi, avec les saisons, connaître à peu près le nombre d'heures de jours par saison, voilà ce genre de détails. Connaître la masse de la planète, connaître un certain nombre de choses qui me permettent de déterminer la gravitation et en conséquence les différences biologiques qu'il peut y avoir avec les animaux qu'on connaît sur la Terre. Sinon, bah, je fais comme si les planètes c'était toute la Terre, un peu différente. Voilà.
Moi, j'avoue que la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que ce soit une planète ? C'est déjà un truc tout simple. Hein, je me dis, si j'ai envie qu'il y ait des humains dans l'espace, quelque part, la première question, c'est est-ce qu'ils vont le faire dans une espèce d'immense station qu'ils vont construire eux-mêmes ? Est-ce qu'ils vont creuser dans des astéroïdes ? Est-ce qu'ils vont s'installer sur une planète ? Parce qu'une planète, on a l'air de trouver ça tout à fait bien, nous on a un peu l'habitude. Ce n'est pas nécessairement la façon la plus efficace de mettre des gens dans un certain volume. Et surtout, des planètes, il n'y en a pas partout, et il n'y en a pas nécessairement partout habitables comme on voudrait. Donc si je me dis, tiens, j'ai envie d'aller explorer tel et tel endroit, ma première question, c'est est-ce que je vais y construire quelque chose ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose ici? C'est vraiment, pour moi, c'est le premier réflexe. Ensuite, je suis un petit peu comme Yal, c'est-à-dire j'aime bien avoir quelque chose de très très défini, mais j'aime bien aussi des environnements qui sont complètement inhabitables, mais par défaut, quoi. Des planètes avec une température à 4000 degrés, des planètes avec une gravité absolument infernale, et de me dire, tiens, comment est-ce qu'on habite? Et de ce côté-là, il y a un type qui est formidable, c'est Ian Banks, qui réussit à faire vivre des gens dans des endroits complètement invraisemblables. Par exemple, disons, il y a une espèce d'énorme naine, une étoile naine, mais on arrive à calculer qu'il y a une couche de l'atmosphère dans laquelle on est pratiquement à la même pression que sur la Terre, pratiquement au même type de température que la Terre, donc on peut s'y installer. Sauf que si on descend vers le cœur de l'étoile, ça va se passer, si on part en haut, etc. Mais on peut s'installer dans cet endroit-là, et on a un environnement qui est certes habitable, mais qui est complètement dingue. Et moi j'aime bien aussi à un moment donné que les choses basculent. J'aime bien les endroits où la nature même de l'endroit où on s'installe entraîne que ça ne peut pas continuer comme avant. Et ça ne peut pas continuer comme avant, pour moi c'est le départ d'à peu près n'importe quel livre qui m'intéresse.
Pierre,
comment je crée une capable de planète ?
Ouais.
Je la crée pas en général. Alors contrairement à mes deux confrères, je n'ai pas d'a priori sur la planète sur laquelle mes personnages vont arriver. Et c'est les réactions des personnages qui vont m'informer de la planète, des caractéristiques de la planète. C'est-à-dire s'il y a une forte gravité, ils vont le sentir sur les épaules, s'il y a une forte chaleur, tout ce genre de détails. Et c'est avec les personnages que je découvre le monde. Bon, alors, c'est un petit peu risqué parce que scientifiquement, ça ne tient pas toujours la route. D'ailleurs, généralement, mon éditeur, ça, c'était Pierre Michaud qui m'avait fait, dans les Gars du Silence, j'avais fait tout un système que je trouvais super joli, j'adorais. Il me dit, je revois le manuscrit, il me renvoie le manuscrit, puis dans la marge, il y avait marqué Pierre, ceci n'est pas possible. Deux points, parce que, tac, 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 tac. Bon, d'accord. Dommage, c'était joli. Oui, c'est joli, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est joli, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Donc, il a fallu que je recrée un autre système plus conforme à la réalité physique, astrophysique. Donc, ce qui m'a fait après prendre conscience que, effectivement, comme on est dans un procédé de science-fiction, il fallait relativement respecter ce que l'on connaissait, tout en se permettant des audaces, puisque de toute façon, personne ne peut les vérifier pour l'instant. Donc, voilà, c'est. Je ne m'interdis rien, les cons savent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Odiar. Et donc, je m'autorise à peu près tout sur une planète, et après, je vois s'il y a une possible cohérence scientifique qui s'en dégage. Avec Alain, par exemple, pour Gigante. On sait que c'est impossible, normalement, la planète de la masse qu'on a créée devrait s'effondrer sur elle-même, ne pas exister. Mais je me dis, il y a des exceptions dans l'univers. Et tant qu'on m'a pas démontré le contraire, ben je persiste à penser que cette exception elle existe.
Laurent. Alors pour le coup, Laurent, t'en as inventé un paquet.
Ouais. Dans mon univers, les planètes sont à disposition. Donc, c'est cool. Il n'y a plus qu'à choisir.
Maintenant, t'as un budget d'effets spéciaux, c'est
incroyable. Ouais, c'est le tout budget qu'il veut. Donc, Donc c'est vrai que mes planètes ne sont pas très exotiques finalement, à part Omal, qui n'est pas vraiment une planète d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un... Alors, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que c'est à la fois... j'essaie quand même, quand je crée une planète, d'avoir à peu près tous les paramètres habituels, gravité, etc. Et puis, mais j'essaie toujours de lier avec les personnages. Alors, en général, ça passe par le langage, donc des néologismes, des trucs comme ça. Donc des fois, par exemple, je sais pas, au détour d'une conversation, il y a t'as une cervelle de lignule. Tiens, une lignule, qu'est-ce que ça va être? Alors, je vais créer un petit insecte un peu idiot, etc. Voilà. Donc j'essaie de faire des liens avec la culture, en fait. Voilà. Créer une planète, c'est créer une nature, une autre nature. Et c'est intéressant quand c'est peuplé, enfin quand il y a de l'humain dedans. En fait. Donc les liens se font naturellement et l'idée pour plus on épaissit un monde, c'est vraiment comme une sauce. Plus on épaissit, en fait, plus on fait des liens avec différentes strates de culture ou de choses comme ça. Donc, ça peut être la religion, ça peut être la vie quotidienne, ça peut être voilà le langage, voilà, ce genre de choses. Donc, on essaie de faire des liens comme ça, vraiment d'intégrer l'homme dans ce tissu déjà préexistant.
Jusqu'où vous allez dans la conception de la planète par rapport à votre récit? Est-ce qu'il y a des éléments que le lecteur ne voit pas ou qui ne sont pas écrits? En fait, j'essaye de voir la frontière entre la crédibilité scientifique, la documentation et la fiction.
Oui.
Merci.
Bonne réponse. Non,
le niveau de détail auquel je peux descendre quand je prépare ma planète, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue des sciences exactes ou d'un point de vue des sciences humaines, ce que vous avez bien rappelé, Laurent, c'est qu'il y a quand même des interactions entre êtres humains, ou entre êtres non humains d'ailleurs, qui sont importantes, est largement supérieure à ce que le lecteur verra. Moi, j'ai besoin d'informations, lui, il n'en a pas nécessairement besoin. Et en plus, si je lui mettais la table de toutes les interactions entre les satellites et les influences sur les marées, ça serait peut-être un peu chiant. Donc je cache plein de choses, mais moi je les connais. Sauf quand effectivement je travaille avec, j'ai décidé que la planète était déjà terraformée, qu'elle ressemblait à la nôtre, où là je m'intéresse aux détails sociologiques, on va dire, ça peut aller jusqu'à la linguistique, c'est assez loin, des trucs complètement idiots. On a tendance à science-fiction, quand on se déplace sur une autre planète, à faire que sur cette planète tout le monde parle la même langue. D'ailleurs on fait même que dans toutes les planètes on parle la même langue. On a appelé ça l'interlangue une fois pour toutes et on est tranquille. Mais c'est totalement irréaliste, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît. On a bien vu que l'humanité était avant tout une tour de Babel. C'est petit à petit qu'une langue s'impose pour des raisons culturelles. Donc ça, c'est des choses qui sont réfléchies en amont. Mais à retranscrire, j'écris en français de toute façon, coopéré. Je n'écris pas encore en klingon. C'est dommage, ça fait un seul an, ça ferait...
Il y aura un public.
Il y aura un public. Voilà. J'ai répondu ?
Oui, très bien. Jean-Claude, pareil.
Non, moi je suis dans le même cas de Yann, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que pour moi, tout système planétaire, tout endroit un petit peu complexe que j'établis est un système complexe. Et un système complexe, ça comporte un ensemble très important de variables qui interagissent les uns avec les autres. Et il y a des cycles. Donc c'est quelque chose dans lequel je sais qu'il y a des tas de possibilités de merder. En fait. Mais comme j'ai pas le temps je pense que ça n'intéresse pas le lecteur et que les personnages qui sont sur cette planète-là ne vont pas nécessairement aux endroits où ça peut poser des problèmes. Moi, je le sais, comme il y a, on est obligé de le savoir, mais on n'est pas amené à en parler. Et il y a un exemple de planète opéra, si je puis dire, pour moi, qui a été absolument fascinant, c'est la série des Tashima qu'a publié Adriana Lorusso, parce qu'on a des gens qui débarquent sur une planète qui est déjà remplie de vie, qui est une vie évidemment totalement non humaine, et qui est une vie qui n'est pas une vie intelligente, mais qui est une vie de prédateur. C'est-à-dire que tout sur la planète cherche à vous tuer. Tout, littéralement. Et la grande histoire de ces livres-là, c'est comment on arrive à se tailler, non pas à conquérir la planète, ils en sont loin. Ils ont découpé l'équivalent de la principauté de Monaco, si vous voulez, sur Terre, et ils ont réussi à vivre là-dedans. Ouais. En à peine plus gros. Et il leur a fallu des centaines, des milliers d'années, et il leur a fallu se modifier génétiquement, il a fallu faire un travail de compréhension et d'adaptation, et devenir aussi des prédateurs encore plus doués que les prédateurs de la planète. Ou tout au moins avoir une caste de prédateurs. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand on parle avec l'auteur, elle nous explique qu'elle sait tout sur sa planète, et c'est vrai, elle sait tout. Elle est allée dans des endroits dont on ne sait même pas qu'ils existent. Elle en est arrivée, elle les a vues, elle sait quelle odeur ça a. Ça aussi, c'est une chose importante pour moi. Quand je vais sur une planète, quand je parle d'une planète, je sais quelle odeur elle a, je sais quel bruit on fait quand on marche sur le tapis de mousse en disant qu'il y a de la mousse. Voyez. On sait quelle est la température de l'eau. Toutes ces choses-là, on les sait parce qu'on est dedans. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais raconter. Et mon amie, donc Adriana Morello-Rousseau, m'explique qu'elle sait sa planète, elle la connaît. Elle la connaît pour y avoir, en quelque sorte, vécu pendant extrêmement longtemps. Et ça donne à ce qu'elle a décrit quelque chose d'incroyablement cohérent, même si on ne sait pas. On se dit, c'est pas possible que toutes les espèces qu'elle a décrites, que toutes les attitudes qu'elle a décrites, ne soient pas bonnes, parce que c'est tellement bien fait les uns par rapport aux autres, c'est tellement cohérent avec ce qui existe, et c'est cohérent avec un modèle qu'on ne voit pas, mais qu'elle connaît. Qu'on a ce sentiment d'exactitude qu'on ne peut avoir que de cette façon-là. C'est vraiment pour obtenir cet effet-là vis-à-vis du lecteur, le sentiment que oui, c'est vrai, c'est crédible, on a besoin de toute une masse d'informations et de compréhension des systèmes dont vous n'avez pas à savoir comment ça marche, mais que nous avons besoin de parfaitement maîtriser pour les faire.
Ça pose quand même la question, et je voulais la poser à Pierre. Dans Gigante, la taille de la planète, en quoi cette taille a influencé l'histoire ?
C'était extrêmement important, puisque tous les déplacements deviennent très compliqués d'un seul coup.
On peut peut-être dire que Gigante, c'est une planète immense.
Qui 18 000 fois la Terre.
18 000 fois la Terre.
C'est pas possible, pareil. C'est pas grave. Mais celle-là, oui, elle existe.
Donc ce qui veut dire qu'on met des années pour aller chercher le soir.
Oui, c'est ça. À 17 999, c'était faisable, mais on exagère un peu. La colonisation devient d'un seul coup une entreprise très difficile. Et donc, ce qui crée les voyages génération, ce qui nous plaisait avec Alain et moi, c'est qu'on pouvait mettre en place des voyages génération, c'est-à-dire des gens qui partaient quelque part pour aller dans un endroit de la planète et qui mettaient plusieurs générations à y arriver. Et donc, c'est ce gigantisme-là qui nous avait plu. On s'était dit, on a réduit un peu parce que on voulait une planète où il faille 100 ans en avion pour en faire le tour, ce qui était quand même beaucoup. Et donc là, il faut un an pour à la vitesse d'un avion pour en faire le tour, ce qui reste encore énorme. Ça conditionnait après toutes les aventures et tout la gravité et plein de choses. La civilisation, il y a des civilisations qui deviennent de ce fait nomades parce qu'elles n'arrivent pratiquement jamais au bout du voyage, enfin... Tout ça, c'était de voir comment l'humain pouvait s'inscrire dans un environnement aussi hostile que la planète gigante, parce qu'aussi elle a des orages magnétiques permanents, elle a des bombardements de boules de feu de temps en temps, enfin ce genre de plaisanterie, et de savoir comment l'humain pouvait s'inscrire là-dedans, pouvait s'installer là-dedans durablement, comment il allait s'adapter dans ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est intéressant pour moi quand on met les humains sur une planète, c'est de voir jusqu'à quel point ils peuvent s'adapter, s'approprier le monde, en récupérer toutes les caractéristiques et se développer en fonction des caractéristiques du monde.
Et dis-nous un petit mot sur parce qu'il y a une notion de voyage qui est très forte dans Gigante, sur justement la taille qui indique un temps de voyage pour les héros particulièrement long.
Je me souviens pas de
ma question. Simplement, dans le gigantisme.
Je sais pas si c'est moi qui l'ai écrit.
Le gigantisme de Gigante.
Mais lui, c'est pas la taille qui compte.
C'est pas la taille qui compte. Pas...
Et du coup, ça implique un temps de voyage.
Pas que c'est faux.
Un temps de voyage particulièrement long. Comment tu as contourné ça?
Au bout d'un moment, en fait, avec Alain, mon histoire se passe avant la sienne. Donc, j'avais une certaine liberté par rapport à lui. Il faut l'utiliser tout de suite avec Alain, il faut utiliser sa liberté tout de suite, il faut la prendre. Et donc je l'ai prise immédiatement et j'ai dit pour raccourcir les voyages, effectivement j'ai inventé une histoire qui s'appelle les flux. C'est-à-dire qu'on voyage dans des flux électriques qui vous transportent instantanément à la vitesse de la lumière quasiment d'un point à l'autre. Et en même temps ça m'intéressait parce que c'est aussi pas possible d'affronter des flux électriques d'une telle puissance hein, qui font des je sais pas combien de milliers de watts. Et donc il y a une sorte de casque qui se met en place qui va affronter les flux et qui... deviennent des voyageurs plus rapides que les autres et qui ont une sorte de, à la fois de légende et de pouvoir.
C'est comment est-ce qu'à partir d'une contrainte, la taille, finalement, un écrivain arrive à jouer avec pour pouvoir raconter son histoire.
Alors, tu disais par rapport aux détails sur une planète, jusqu'à quel point on peut descendre dans les détails, ça dépend vraiment parce qu'il y a certaines aventures où on passe sur une planète et c'est comme quand vous allez dans un endroit et que vous faites escale quelque part, vous voyez qu'un petit bout des choses, vous voyez une ville, un paysage, et c'est tout. Et dans l'idée du voyage spatial, il y a ça aussi. On passe sur une planète qui est un astropeur relais, et donc on voit quelque chose, et puis on s'en va, et puis etc. Mais si on est avec les gens qui vivent sur la planète, comme par exemple la planète Éphraïm pour moi dans les guerres du silence, où vraiment les gens sont conditionnés par leur monde, là on rentre dans les détails parce qu'on a besoin simplement pour l'histoire.
Jean-Claude voulait réagir.
La différence que je réalise entre ce que dit Pierre par exemple, ou Laurent et moi, c'est que Pierre et Laurent, ils ont des héros, moi j'ai des personnages. Les héros, ça ne peut pas rester en place et ça va visiter le monde. Moi j'ai le genre de personnage, quand on fait des échanges dans les movies, dans l'étoile morte, et j'ai réfléchi pourquoi je change de passage. Ou à un moment donné, le mec, il sort de la ville, ben, il fait 300 mètres. Puis il regarde, il dit, tout, où ça a l'air grand, puis il revient. Parce que là où elle vient, s'il y a un bar, il y a ses magasins, il connaît, il a son appart, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de bouger. Moi, j'ai ce genre de personnage-là. Alors, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus peut-être réaliste par rapport à la vie quotidienne, mais c'est un peu chiant, les gens comme ça, il faut reconnaître. J'ai envie de leur dire, mais va quand même au moins jusqu'à la colline, voir un peu ce que ça donne. Il dit, non, je suis fatigué, puis en plus, c'est l'heure de la télé, il y a une émission qui commence dans 5 minutes. Donc, il revient. Et vraiment, il fait ça, quoi. Enfin, il est vraiment. Et je me dis, si on se à un moment donné débarquer sur la planète machin, ben, je suis à peu près certain que 200 ans plus tard, il y a une petite région, genre l'Andorre, ou la préfecture de Monaco, qui va être totalement surpeuplée. Et que personne ne sera allé ailleurs parce qu'on veut juste rester avec les copains et on n'a pas envie d'aller partir tout ça seul à l'hôtel. Pourquoi il y a plein de places ici, en plus il y a des magasins, donc on ne va quand même pas sortir. Mais c'est vraiment ça pour moi l'idée des gens. Et ça, c'est pas des héros, c'est des personnages. Et les personnages, c'est chiant. Il va falloir que je m'invente des héros, des gens qui disent allons conquérir de nouveaux territoires.
Ouais, c'est bien, je crois qu'il y a Laurent qui a un petit peu.
Ouais. Laurent, peut-être tu peux nous parler alors. Dommage, peut-être ses caractéristiques et. On est dans le gigantisme hein, aussi avec Omar, qu'est-ce que ça influence au niveau de ton histoire?
Alors Omar, c'est pas une planète, au sens, c'est une... Il y a un mot qui a été forgé il y a quelques années qui s'appelle les big dumb objects, les gros objets stupides, donc dans lesquels, par exemple, ça s'applique à Rama de Clark, voilà, les stations gigantesques, les vaisseaux de 100 km de long, voilà, les gros objets stupides. Et Omal, c'est un gros objet stupide. C'est une grosse coquille, c'est une coquille qui enveloppe un soleil, une étoile, à une unité astronomique de distance, donc la distance Terre-Soleil. Et là, elle tourne sur elle-même. Et l'intérieur est atmosphérisé, donc il y a une sorte de couche d'atmosphère au niveau de l'équateur, pas de façon continue, c'est des sortes de poches comme ça, et des espèces intelligentes ont été importées là-dedans, dont l'humanité et puis d'autres espèces. Alors le fait qu'il y ait des sortes de poches d'atmosphère comme ça, avec un substrat, avec donc des lacs, des montagnes, mais un sous-sol on arrive très vite au sous-sol. Enfin, sur le plancher de ce monde-là. Donc il n'y a pas vraiment de sous-sol, tout le monde vit en surface. Mais donc il y a plusieurs, il y a plein de poches comme ça qui correspondent tout simplement à des zones de viabilité pour certaines espèces. Donc l'humanité, elle a été importée avec deux autres espèces, les Chil et les Hodkin, qui grosso modo respirent le même composé atmosphérique. Enfin, ça correspond grosso modo. Et donc l'humanité va partager son espace vital, qui est très grand, mais pour l'humanité c'est jamais assez grand, donc on se frite assez facilement avec les espèces, les autres espèces. Et voilà, donc Omal, c'est l'histoire sur à peu près 2000 ans d'un échantillon d'humanité qui a été importé dans cet artefact. Et voilà, et donc c'est j'ai créé tout un système qui est, on va dire, pas réaliste, mais vraisemblable, en tout cas. Alors, le gros point d'achoppement, c'est la gravité, souvent. On peut s'accommoder, on peut louvoyer avec les autres forces de la nature, mais la gravité, c'est difficile. Donc là, j'ai fait l'impasse dessus. Donc j'ai simplement dit qu'elle tourne, mais en réalité, pour simuler la gravité avec une force centrifuge, il faudrait qu'elle tourne, comme elle a une unité astronomique de diamètre, il faudrait vraiment qu'elle tourne, enfin de rayon, il faudrait qu'elle tourne à une vitesse quasiment relativiste pour que ça fonctionne. Mais je m'en fiche, j'ai dit que voilà, c'est mon rasoir d'Ockham à moi.
Comme il faut.
C'est, voilà, je suis pas... voilà, c'est de la science-fiction, donc c'est de la fiction, donc c'est pas de la science. Donc on peut se permettre des choses que la science ne peut pas se permettre. Je me suis permis de faire l'impasse sur la gravité parce que c'était pas possible de faire autrement, sinon le système ne fonctionnait pas. Enfin, je veux dire, mon histoire tombait à l'eau. Mais le fait d'avoir dit, bon allez, on dit que c'est la force centrifuge, ça reste suffisamment vague pour être acceptable à la première lecture. Tant que les autres sphères de réalité sont au plus près du réel, pour le coup, ça fait passer la pilule. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, l'intérêt, en tout cas, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la hard science, au sens où la science n'est pas au cœur. La science, elle nourrit l'immersion. Et là, voilà, donc l'immersion, elle est dans la variété des espèces, le vraisemblable des rapports écosystémiques, etc. Donc, donc les autres sphères de réalité, les autres strates de réalité sont respectées globalement. Je ne viole pas trop de lois fondamentales. C'est vrai que la gravité, c'est un des points les plus difficiles, sauf à recourir à de la super science, j'ai un peu de répugnance à ça.
C'est magique.
Voilà, voilà, parce qu'on est, voilà, on rentre quand même dans une sorte de magie. Mais enfin, c'est un choix esthétique en réalité. Le fait de ne pas recourir à de la super science, c'est un choix esthétique.
Il y a Pierre qui voulait réagir. Oui, c'était par rapport à la gravité qui se pose toujours lors des voyages spatiaux, parce que quand on parle de planète, on parle aussi de voyages spatiaux souvent, et que bah, la gravité dans les vaisseaux. Et à un moment de décrire l'apesanteur, c'est très chiant. Donc on est obligé de dire qu'il y a une sorte de système qui s'appelle gravité artificielle, un générateur de gravité artificielle, qui fait que voilà, ça fonctionne. Mais on est obligé de faire des impasses, comme tu disais, sur ce genre de choses, parce que ça devient pénible du coup de décrire en permanence des évolutions, par exemple, en apesanteur. Pardon, Yann, s'il te plaît.
Non, mais c'est pas de une connerie.
Ça nous intéresse aussi. Ouais.
On a dit des choses sérieuses.
On a du mal à unifier avec la gravité. Oui, mais justement, dans la théorie de l'unification, pour l'instant, le seul truc qu'on n'arrive pas à coller, c'est la gravité. Bon.
Oui, c'est pour ça.
Voilà.
Mais on a une chance quand même, c'est que quand on étudie un petit peu les théories de formation des systèmes planétaires, parce qu'en fait, il y a une espèce de grosse, enfin, il y a plein de milliards d'années, vous avez un proto-étoile, et vous avez une espèce de tourbillon de matière qui tourne autour, et comme c'est un système, entre guillemets, c'est un système instable, etc. La mécanique stellaire telle qu'on l'a fait que, suivant la taille du noyau initial, suivant la taille de l'étoile centrale, etc., on a des formations des agrégats de planètes qui se forment dans des espèces de bandes qui sont ce qu'on appelle des bandes stables. La chance qu'on a, c'est que quand on a des planètes, des soleils ressemblant aux nôtres en termes de masse, on a assez régulièrement des planètes se formant dans la même, à peu près la même distance que la Terre par rapport aux étoiles. Donc on arrive à trouver relativement souvent des étoiles compatibles aux nôtres avec des planètes dans des zones compatibles aux nôtres parce que la mécanique nous amène à faire ça. Le seul problème, c'est que si votre planète est un peu plus grosse, vous arrivez avec une gravité 1,20, ça a l'air pas grand-chose, différence 20%. Mais vous risquez de mourir avec le fait d'aller aux toilettes, hein, ce qui est quand même un petit peu emmerdant. C'est pas d'ailleurs, désolé. Celle-là, je l'ai pas fait exprès, je suis en... Mais donc, ça veut dire que le coût de la gravité, je dirais, entre 0,95 et 1,04 pour être confortable, ça serait... C'est pas courant, mais ça arrive. La simple statistique fait qu'il y en a. Et donc, on peut se permettre de dire, OK, ça se passe comme ça. Parce que 0,95, c'est bien, ça soulage un petit peu le cœur, on a moins besoin de soutien-gorge, il y a des tas d'avantages. Mais ça reste quand même... Ça a quand même une différence. Ça veut dire que, par exemple, les eaux deviennent plus fragiles. Enfin, il y a un certain nombre de choses sur le long terme. 1,05, ben, faut vous transporter. Moi, personnellement, ça veut dire que je me transporte 8 kilos de plus dans ma vie, quoi. Donc, c'est, à un moment donné, j'ai l'impression que poser le pack de lait, vous savez, c'est agréable. Eh bien, ça fait rien. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une fourchette très, très réduite. Mais la mécanique stellaire garantit que c'est quand même un système probable pour le type d'étoile qui nous sont familières, ce qui est une chance. Il y a d'assez fortes chances s'il y a des planètes aussi qui est une planète de type Jupiter, enfin une espèce d'étoile, une étoile pas aboutie façon Jupiter, quelque part dans le coin. Ce qui est pratique aussi, un truc comme Jupiter, parce que ça évite qu'on se fasse bombarder par les météorites. Parce qu'il y a tellement de météorites qui arrivent sur le système solaire, sauf que la masse de Jupiter en capture la plus grosse partie. Et elle nous évite d'être bombardés. C'est un énorme bouclier qui nous rend énormément en service. Heureusement, parce que sinon, on se referait le coup des dinosaures tous les 10 000 ans, et là, ça ne durerait pas bien, je pense. Donc, on peut se dire, OK, on a une planète, entre guillemets, habitable, susceptible d'abriter la vie, et ce n'est pas totalement idiot. La preuve étant que les nouveaux radiotélescopes, comme ça, on découvre assez régulièrement. Et ils ont une bonne tête. Dernièrement, là, on a posté une photo de planète, effectivement, elle a une bonne tête. Il y a de l'eau, il y a des nuages, il l'hypothèse qu'il puisse y avoir la vie, au moins une vie unicellulaire, est loin d'être idiote. Donc ça va, on est quand même bon, mais on peut prouver qu'on n'est pas du tout le seul endroit habitable selon nos critères de l'univers entier, loin de là. Après, on peut tout imaginer. Et puis, je vous rappelle quand même que la planète géante, vous n'êtes pas les premiers à imaginer. Vous avez un certain
nombre de
chimpanzés qui a fait ça. Oui. Et c'est pareil, le plaisir, c'est de dire, la planète géante, ça ne sert qu'à dire, j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Je n'arriverai jamais au bout. Parce que c'est un peu le problème de la Terre actuellement. Si on essaie de créer un pays, on est obligé un petit peu de virer les gens qui étaient déjà là, quoi, ou de leur piquer leur truc. Donc, sur la planète géante, a priori, on vous dit, écoute, à partir du truc là-bas, c'est territoire inconnu, donc c'est à toi si tu vas. Alors moi, j'ai le mec qui revient parce que c'est leur satellite, mais il y a des héros, quoi. Il y a des gens qui vont conquérir. Alors, partons conquérir.
Oui, puis le space hop, c'est presque la définition du space hop. Hein. C'est vraiment, c'est la frontière. Quoi. C'est...
Oui, mais moi, je ne la franchis pas. C'est, je ne vois pas l'intérêt.
Mais, en fait, c'est je trouve que le créer une planète, ça peut être un carcan pour certains, mais ça peut être très ludique. Et pour moi, c'est un bon résumé de la SF, où on peut considérer que la SF, ce n'est qu'un décorum pour des mythes universels, ou au contraire, quelque chose de ludique, où on essaie de jouer avec les paramètres, de jouer avec avec une matière. Et voilà, donc pour moi,
c'est plusieurs logiciels d'aide à la création de planètes uniquement pour les auteurs ou les scénaristes de...
Alors, je l'ai essayé, mais c'est pas intéressant du tout.
Oui, c'est frustrant.
C'est complètement frustrant, parce que l'intérêt, c'est de trouver des... Parce que, la SF, elle se construit déjà depuis plus d'un siècle. Donc, quand j'ai créé Omal, j'avais derrière moi, donc cette espèce de coquille, j'avais derrière moi l'anneau monde de Niven, j'avais le créateur d'univers de Stapledon. J'avais déjà au moins 3-4 bouquins, les vaisseaux du temps de. Donc comment, par exemple, comment créer une alternance jour-nuit dans une sphère de Dyson, donc dans cette espèce de coquille, sachant que le Soleil est toujours au zénith, hein, forcément. Donc il ne peut pas y avoir de. Comme c'est pas une planète. C'est une coquille, donc le soleil est toujours au zénith, et donc il n'y a pas de nuit, la nuit n'existe pas. Donc comment créer une nuit de façon artificielle sans recourir aux astuces des écrivains précédents? Donc c'était ça, pour moi, par exemple, un des enjeux rigolos du truc. Donc j'ai créé ma tambouille, j'ai déjeuné avec un astrophysicien qui m'a indirectement donné l'idée. Voilà, donc ça... C'est comme ça aussi qu'on avance.
De temps en temps, on a la chance, on peut aller rencontrer des gens qui, eux, sont des savants, qui savent, et qui, quand on essaie de leur expliquer ce qu'on veut faire, on regarde en général avec un petit peu de pitié, vous dire, mais il y a beaucoup plus drôle, et puis à partir de là, vous inventez un machin.
Par exemple, sur le... Alors moi, en général, ça ne se passe pas trop comme ça. C'est plutôt dans des échanges de mails ou des conversations in vivo, avec, par exemple, sur l'alternance jour-nuit, j'avais imaginé déjà un système de lunes, des lunes intérieures. Et donc j'avais déjà avec Jacques Paul, qui est un astrophysicien, mais lui il est plutôt branché trou noir. Et il m'avait dit, oh là, ton système de lunes, enfin ça ne fonctionnait pas, et il m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je dis, ah ouais, ça ne fonctionne vraiment pas. Et donc on déjeune, puis j'arrive pas à trouver, donc on discute. Et puis à la fin, en fait, je dis... le dessert arrive, on va truc, et il me dit ton système, il faut qu'il soit local, il faut que ça se passe vraiment juste au-dessus de l'atmosphère, il n'y a que comme ça que tu vas avoir un truc réaliste. Et c'est en regardant ma montre, qui était une montre, là c'est de l'encre électronique, mais c'était une montre à quartz, et là je me dis, ah tiens, c'est là où j'ai percuté. Mais il m'aurait pas dit que c'était... Donc c'est un gaz qui fonctionne un peu comme des cristaux liquides. Donc au lieu que ce soit un courant électrique qui polarise les molécules, là c'est le rayonnement photonique, enfin le rayonnement du soleil. Mais grosso modo, ça fonctionne un peu comme des cristaux liquides, on va dire. Sauf que c'est gazeux. Mais s'il m'avait pas dit que c'était un phénomène local, j'aurais certainement... Et si j'avais pas regardé ma montre, j'aurais certainement pas trouvé cette idée de couche phototropique. Donc il n'a pas trouvé l'idée, mais c'est dans le dialogue. J'aurais pas pu sans lui, c'est clair. Et c'est souvent le cas, en fait.
Pierre.
Alors, par rapport à ce que j'ai fait une expérience dernière qui s'appelle Exquise Planète avec Roland Lehoucq, Jean-Sébastien Steyer et Jean-Paul Demoule, où c'est un astrophysicien, donc Roland Lehoucq, qui a créé le monde astrophysique. Donc, en tenant compte de tous ses connaissances scientifiques à lui, donc voilà. Après, il y a un archéologue qui a inventé une sorte de vie qui apparaît sur ce monde, et puis un historien qui a parlé d'un développement possible. Et moi, je venais en tant qu'auteur de science-fiction pour faire une histoire avec tous leurs éléments. Donc, j'arrive en quatrième position. Et donc, je tiens compte de. Je suis obligé, là, du coup. On m'a vraiment mis dans un cadre scientifique plausible. Et donc, obligé de faire une histoire. Donc, c'est une planète qui a. Une nuit, un jour, dure 19 jours de nos nuits, de nos jours pour nous, etc. Il y a une orbite elliptique qui fait que quand ça passe près du Soleil, il y a des éruptions, enfin, il y a des tremblements de terre très importants, comme les marées, mais c'est des marées de terre, finalement. Et tout ça, il fallait faire une histoire avec ça, et ça c'était super, quoi, parce que le décor avait vraiment été posé par quelqu'un, et moi je devais m'inscrire simplement en tant qu'élément humain, c'est-à-dire comment des hommes peuvent s'inscrire dans un tel paysage, et ça c'était une très très belle expérience.
Jean-Claude, tu veux dire quelque chose?
Non, je pense qu'il y a une nouvelle de ces. Je crois qu'elle est d'Asimov, où le système planétaire fait tel qu'on ne voit les étoiles qu'une fois tous les, je sais plus combien de milliers d'années. Et c'est devenu une histoire complètement mythique, et à chaque fois, le fait de s'apercevoir qu'il y a un ciel avec toutes ces étoiles là-bas derrière, alors qu'on ne le voit jamais avant, l'atmosphère est opaque, ça provoque, ça fait s'effondrer la civilisation à chaque fois, parce que les gens paniquent en disant « nous ne sommes pas seuls, c'est l'horreur », etc. Et c'est un sentiment aussi qui est extrêmement curieux de se dire comment la simple différence, petite différence de quelque chose sur notre planète, peut entraîner une civilisation complètement différente, avec des valeurs en particulier sociologiques complètement différentes. Par exemple, quand on a une planète géante qui a tout le monde, ben, je veux dire, à quoi ça sert d'essayer de piquer la Terre du voisin, sachant que de la Terre, il y en a juste de l'autre côté de la colline, quoi. Et puis serre-toi. Et puis tu fais 500 mètres, il y en aura encore plus pour toi. Ça s'entraîne un rapport tout à fait différent. S'il y a une situation d'abondance, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons une planète, par exemple, dans laquelle on découvre une source de nourriture pratiquement inépuisable, bonne, et qui pose problème. Il n'y a plus de pauvreté.
Nutella?
Nutella, voilà. On est dans une mer de Nutella. Mer de Nutella, on plante des arbres à pain à côté, on n'a absolument aucun problème. Le petit
gilet, c'est...
Voilà, on a ça. On a une planète dans laquelle on a des arbres à machin.
Des arbres à pain au chocolat.
Quel rapport a-t-on? Comment vit-on? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? À ce moment-là, c'est une question d'ailleurs que pose très très souvent Jack Vance. Moi, c'est pour ça que j'adore Jack Vance. De temps en temps, il dit, c'est quoi la richesse? C'est quoi la valeur? Et il a, dans les mondes de Magnus Ridolf, il a une enquête dans laquelle il y a quelqu'un, une personne parmi 5 à 6 espèces, totalement différentes et totalement cinglées à la Jack Vance, qui est un voleur. Et la grande question, c'est trouver lequel. Et Magnus Ridolf, il a une attitude très curieuse, il dit, ok, si le gars pique de l'argent, il doit s'en servir pour s'acheter des choses. C'est quoi qui a de la valeur pour chacune de ces 6 espèces? Et il les élimine les unes après les autres, et on s'aperçoit qu'en fait, l'espèce qui a piqué, c'est une espèce d'énorme gros vert blob, machin, etc., qui est là pour bouffer les ordures. Donc il est plongé dans les ordures, il bouffe, vraiment, c'est la bestiole la plus répugnante qu'il faut imaginer. Mais c'est le voleur, et c'est le voleur parce que, pour lui, la richesse, c'est d'avoir une flore intestinale particulièrement raffinée, qui fait que quand il bouffe ses ordures, ça lui fait vraiment une nourriture absolument extraordinaire. Et on lui livre régulièrement des petits paquets de flore intestinale qui coûtent très cher. Et c'est pour ça qu'il vole, il est accro à la flore intestinale. Et je me dis, ok, une richesse qui consiste à se créer une flore intestinale qui fasse trouver bon n'importe quel machin chez McDonald's, par exemple, ça serait effectivement un truc. On peut écrire une histoire policière là-dessus.
Les points de Nutella, c'était pour plaisanter, hein.
Est-ce qu'il y a justement, tu peux nous parler de Maricia dans la troisième lame?
Oui, il y a de Nutella.
Simplement, alors je voudrais qu'on en parle parce que pour le coup, il y a une symbiose entre être vivant et planète.
C'est quelque chose que j'ai commis plusieurs fois, mais particulièrement dans cette nouvelle-là. C'est une symbiose entre tout ce qui constitue la planète, en fait. La planète elle-même en tant qu'objet planétaire, et puis les êtres qui se sont développés, toute la biologie, ça va très loin, sur laquelle d'ailleurs l'homme est intervenu, donc a importé ces propres trucs qui ont muté, qui sont devenus partie intégrante de cet écosystème. J'ai juste créé, poussé un écosystème très loin, c'est-à-dire jusqu'à l'entente parfaite qui existe. Hein. Nos écosystèmes fonctionnent sur ce principe-là, c'est-à-dire grosso modo, s'il y a de la bouffe, ben, il y a un prédateur. S'il n'y a pas de bouffe, ben, un prédateur il meurt, enfin, tout ça, c'est ce genre de choses. Voilà. Donc, Maricia, c'est un élément construit avec... non, je ne vais pas me réveiller tout de suite. Ce qui m'intéressait, c'était au bout du compte, d'amener le lecteur à estimer que ce système-là était intelligent, arrivait à développer une intelligence en soi, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je suis resté d'un point de vue écologique assez sobre. Mais ça donne l'ensemble, que tout est le point de vue d'ensemble, que tout est organisé, que tout s'entend pour fonctionner dans un sens. Avec en plus ce truc bizarre qu'on appelle la mémoire collective, la conscience collective humaine qui vient se greffer là-dessus et qui vient en plus, elle modifie, mais elle est modifiée par son environnement. Enfin, la musée, sauf être les miels. Ah, le miel, c'est quand même mieux que le Nutella, excusez-moi.
Ouais, parce qu'on peut dire que ça passe par les abeilles.
Tout à fait.
Mais sans trop déflorer. Hein.
Oh, déflorer avec les abeilles. Et il y a un truc par contre, ça alors là, c'est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une écologie qui est en train de se développer sur Terre, qui est, je dirais, l'écologie des systèmes interconnectés dans lesquels on vit. Il faut savoir que nous, peut-être pas, mais nos enfants vont vivre dans des environnements, les enfants dans les environnements urbains, dans lesquels tout un tas d'objets communiqueront avec tout un tas d'autres objets, et communiqueront avec une interface, personnellement, j'appelle ça la matrice attentive. C'est un truc sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qui fait que toute votre maison sera attentif à vous, suivant la manière dont vous aurez décidé qu'elle doit l'être. Fonctionnera ensemble, vous aurez des hiérarchisations qui se mettront, mais elle sera attentive à vous. Et ça va entraîner un rapport...
C'est aux humanoïdes.
Quoi non ?
Ça fait penser aux humanoïdes de Williamson.
C'est les humanoïdes de Williamson, mais je dirais que c'est quelque chose qui n'est absolument pas dirigé par une conscience mauvaise, etc. C'est juste que vous êtes là et le système le sait. Mais ça veut dire quoi ? Vous rentrez dans une pièce, la température s'ajuste. Vous n'avez rien dans le frigo, la commande sera passée. Ça, c'est une chose, mais vos clés, vous ne les perdrez plus jamais, parce que le système saura où elles sont, même si vous ne le savez pas. Donc, toute une partie de choses que vous avez besoin de savoir ne sera pas su, toute une partie d'actions que vous faites sera déportée, et surtout, le système vous restituera l'importance que vous avez. Or, la grande difficulté pour nous, écrivains de science-fiction, c'est que nous débarquons sur une planète qui est totalement indifférente à nous, voire hostile, qui ne nous attend pas, qui n'espère rien de nous, et dans lequel nous devons imposer nos valeurs. Et de plus en plus, nos enfants vont vivre dans un système dans lequel leur importance sera reconnue par l'environnement lui-même. Et d'une manière, je dirais, automatique. Et pour beaucoup de gens, c'est considéré comme une bonne chose. Parce que ça n'empêchera pas, je dirais, votre liberté, au contraire, ça vous facilitera les choses. Et vous serez en permanence reconnu. Bien ça, c'est un type d'écosystème que nous avons créé et que nous sommes en train de créer, et croyez-moi, il est vraiment là. Nous sommes en train de le créer, et à ma connaissance, aucune planète ne nous offre. Donc je pense que les prochains écosystèmes les plus fascinants, on va les trouver à partir de ce que nous-mêmes nous développons dans l'environnement que nous avons créé.
Laurent, tu voulais dire un mot ?
C'est par rapport aux humanoïdes de Williamson, c'est justement, c'est pas du tout une conscience mauvaise, au contraire. Cantonne, c'est des robots à la Asimov,
oui,
qui protègent l'homme au point que l'homme ne peut plus sortir de chez lui et est justement cantonné dans le domaine domestique où il ne peut plus rien toucher et en fait il finit par être une sorte d'esclave, enfin une sorte de bibelot qui ne peut plus rien faire. Justement. Donc, et c'est un système attentif pour le coup.
C'est un système attentif, mais la différence c'est que par rapport aux robots de Williamson, justement, il y a cette espèce de masse de robots qui fait qu'on ne peut pas le combattre, on peut pas, si on a décidé de sortir, on peut pas l'écarter du chemin. Là, je vous parle de votre téléviseur, je vous parle de votre frigo, je vous parle de votre aspirateur, donc de choses qui sont quelquefois toutes petites. Mais c'en est à un stade où vous avez aux États-Unis des peluches pour enfants vendues avec une puce RFID pour que le gosse ne la perde jamais. Qu'on sache toujours où est sa peluche. Ce qui est fondamental pour le gosse, encore une fois. Puisqu'à un moment donné, dès qu'il sait, le gamin qui a 6 mois qui est en train de ramper, qui ne marche pas, dès qu'il a perdu de vue sa peluche est perdue. Parce que l'univers n'est pas un univers mémoriel, c'est un univers d'exploration permanente. Eh bien, vous avez on a trouvé la solution, il y a une puce RFID qui vous dit la peluche est à tel endroit. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne jamais perdre sa peluche ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne jamais avoir l'angoisse de, ce, de se réveiller dans un endroit où on ne sait pas où on est. Moi, la grande question que je me pose, c'est d'imaginer un univers dans 50 ans dans lequel on est obligé de mettre en place ses peurs, justement pour développer ça. Je suis en train d'imaginer une histoire dans laquelle il y a quelqu'un qui crée une espèce de bois derrière la maison, rempli de serpents invisibles, rempli de trucs qui bougent, etc., pour que le gamin ait peur. Sauf que les serpents invisibles sont des machins mécaniques qui bougent au moment où il arrive, pour qu'il ait peur au moment où il a les pieds dans les feuilles, juste pour avoir cette impression-là. Et vraiment, c'est des choses que je travaille parce que je me dis, toute cette notion-là, on ne l'aura pas parce que l'univers nous renverra en permanence le même message. Nous savons qui tu es, nous savons où tu es, tu n'es pas perdu. Avons-nous besoin d'être perdu? Je pense. Avons-nous besoin de temps en temps d'avoir cette espèce de déconnexion pour devenir quelque chose d'un peu plus complexe? Je pense aussi. Donc, nous aurons besoin que le système, d'une certaine façon, laisse la place à un autre système. Et ça sera un moment traumatisant. J'ai écrit une histoire qui s'appelle Les Serpents dans les Feuilles, qui se passe à Paris dans un siècle environ, dans lequel il y a des sorties scolaires, dans lequel on déconnecte les gosses pendant 3 minutes du système. Et du coup, ils ne savent plus où ils sont. Et pendant ces 3 minutes-là, ils réinventent la comédie, la tragédie, le drame, parce que... Voilà. Mais c'est atroce. Et au point que vous avez des parents d'élèves qui surveillent, qui disent, mais arrêtez tout. Nos enfants sont en train de souffrir. Il y en a un qui est tombé, qui s'est écorché le genou. Et les parents ne supportent pas l'idée que le gamin soit tout seul dans une circonstance comme celle-là.
Alors moi, j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça.
Mais le problème, c'est qu'on est en train de...
Eh bien, j'espère qu'on luttera contre ça.
Et lutter avec les armes.
Eh bien, je me demande par ailleurs si ce qu'on les soubresauts qu'on voit dans le monde actuel, ce ne sont pas des sortes de réactions inconscientes à ce genre de système qui se met en place. Parce que je pense que l'incertitude fait partie de l'humain, quoi.
Est-ce que justement, en ce moment, compte tenu des crises que nous vivons, l'incertitude est une chose qui est en train d'être combattue par tous les systèmes dits industrialisés et de civilisation avancée, typiquement les États-Unis, nous, les Occidentaux, juste pour dire, on n'a pas envie de cette inquiétude, on a envie de savoir que la personne autour de moi ne nous représente pas de risque. S'il existe un système permettant de dire que la totalité des personnes qui sont là sont connues, ont leur pédigré, et par conséquent, aucun d'eux n'a le risque d'avoir posé une bombe dans le truc, bien vous savez que si on fait une enquête, 90% des gens, dans notre situation, seront d'accord pour que ce système-là soit possible.
Oui. Moi, je préfère le risque de bombe, personnellement.
Mais toi, oui, mais justement, notre travail de science-fiction, c'est de rappeler que le risque de bombe peut avoir des bons côtés, si je puis dire. Le risque, dans son ensemble. La déconnexion, la peur. Je suis le résultat d'un ensemble d'expériences fortes, de peur, d'émerveillement, de crise d'angoisse, de moments de perdition et de moments de retrouvailles, de mon enfance.
Toi aussi, tu as lu Proust.
Moi aussi. Voilà. Et donc, tout cela,
Gaspard Proust,
tout cela fait que je suis ce que je suis. Me transformer ça dans un univers beaucoup plus lissé risque de me transformer en autre chose. Quelque chose qui sera peut-être probablement plus heureux, ou en tout cas plus calme, moins stressé, qui vivra plus longtemps, mais quelque chose dans lequel. Pour moi, une composante essentielle.
Tout à l'heure, tu faisais allusion à la différence entre le héros et le personnage, et elle se tient exactement là. C'est-à-dire que le héros, c'est celui qui va accepter d'affronter l'inconnu, tandis que le personnage, c'est celui qui va se réfugier en permanence dans son connu. Il y a un livre de Krishnamurti qui s'appelle Se libérer du connu, et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire c'est accepter notre liberté intérieure. La liberté intérieure, ça passe surtout pas par un artefact ou par un système qui impose cette liberté. Donc j'espère qu'on aura suffisamment de lucidité.
Et donc les nouvelles planètes demandent des héros, ouais. Et les personnages n'arrivent que quand la planète est déjà
brûlée. Oui, exactement.
Les personnages sont les touristes et les héros sont les colonisateurs. C'est beau.
Pourquoi les objets devraient nous apporter la liberté? Tu peux tout à fait imaginer que ce soit absolument l'inverse. J'ai vu Timbuktu il y a 2 jours. J'imagine des objets intelligents au service des gars de djihadistes ou de Daesh. Tu peux programmer des objets pour qu'ils alertent aussitôt que tu entends que tu écoutes de la musique, que ta femme écoute de la musique, ou que tes enfants jouent au football. Voilà quoi. Ça peut être une coercition. D'une définition de la seconde où tu pourras littéralement ne plus avoir de liberté du tout. Tu peux transformer la vie en une prison éternelle. Extrêmement violente aussi.
Il y a un fait qui est passé totalement inaperçu, sur lequel je suis tombé tout à fait par hasard, dans un compte rendu, parce que je m'intéresse à des aspects type drone, etc. où justement des combattants type Daesh se sont retrouvés à un moment donné face à des drones de combat américains. Ce sont des espèces de machins montés sur des chenilles qui vont les combattre. Eh bien, ils ne leur tirent pas dessus. Ils leur tirent dessus au début, puis quand ils s'aperçoivent de ce qu'ils sont, ils jettent leur fusil et ils leur lancent des malédictions. Parce qu'ils sont persuadés que face à ça, c'est la seule chose qui peut fonctionner. Et c'est une situation dans laquelle tu as véritablement deux réalités qui se fracturent au contact l'une de l'autre. Et le gars qui racontait tout ça, il disait, ben nous, on est, dans une certaine façon, on est complètement paralysés par ce genre de truc, parce que du coup, on tire sur des gens des armées qui nous balancent des malédictions. Mais qui sont quand même des combattants qui, si on arrivait en personne devant, reprendraient leur fusil pour nous tirer dessus.
C'était génial. Oui, remplaçons les armes à feu par les malédictions, ce sera aussi ça. Merci à vous. On peut peut-être prendre une question si vous en avez une.
On a un peu dévié de la planète.
On a un peu dévié. Oui. Hein,
bah, c'est la planète logique, c'est la planète Terre aussi.
Mais, c'est ça.
Oui. Si je voulais réagir en rapport à la. Quand vous parliez de la création de la planète. En fait, vous avez tous des idées différentes. Vous parlez également du fait que les lecteurs ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur toute la planète, mais du coup, ça me laisse penser que c'est intimement lié à votre technique d'écriture.
Oui.
Ça va être vraiment, propre à chaque être humain.
Et c'est lié à ce qui est important pour vous. C'est ça surtout. Ce qui est important, ce qu'on a envie de faire passer, ce sur quoi s'appuie l'histoire, les piliers sous-jacents de l'histoire, ça, je vous garantis que c'est travaillé au dernier boulot. Vraiment, parce qu'on en a besoin. Mais après, les histoires de Yann, les histoires, celles de Pierre ou celles de.
Ça, c'est toi, hein. Moi, je torche le truc.
Oui, écoutez, j'ai bossé avec toi, j'ai été ton éditeur. Alors, pas à moi. C'est pas à moi.
Non, mais cela dit. Moi, je commence par l'environnement. Il y a des confrères qui commencent par des personnages, par l'histoire elle-même. Moi, j'ai tendance à. C'est vrai que je suis un créateur. Je fabrique mes univers. Souvent, ils préexistent. Et souvent, mes personnages, je les lâche dans un environnement à travers lequel ils vont. Avec lequel ils vont réagir. Alors que beaucoup de mes confrères, c'est les personnages eux-mêmes qui sécrètent l'environnement autour d'eux, finalement.
Oui, c'est tout à fait mon cas.
Voilà, donc c'est vrai que ma façon de fonctionner, c'est plutôt je crée d'abord l'environnement, donc c'est vrai que du coup mes planètes sont souvent assez exotiques donc effectivement par exemple la planète de lave, je vais imaginer comment de l'humain peut ensemencer une planète antéarchéenne, c'est-à-dire vraiment la Terre telle qu'elle existait il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire une boule de lave quoi. Comment ça peut comment on peut mettre de l'humain dedans?
Pierre.
Mais je vais vous faire une confidence, moi mort, l'univers n'existe pas. Non pas que je sois créateur de l'univers, mais quand je dors ou quand je suis inconscient, je n'ai aucune idée de l'univers. Donc ce qui m'intéresse, c'est le regard que je porte sur l'univers, parce que de toute façon, ça ne marque que comme ça. Mes personnages ont un regard sur l'univers, et c'est comme ça que je découvre l'univers avec eux. Je suis dans le personnage, c'est mon vaisseau spatial, et il me fait découvrir son univers par son regard. Parce que sinon, pour moi, de décrire une planète comme ça, sans le regard porté dessus, elle n'existe même pas. C'est le regard qui l'a fait exister, c'est tout. C'est pour ça que je travaille en immersion totale dans l'écriture, c'est-à-dire que mes personnages arrivent sur le monde et découvrent le monde que moi, je pourrais le découvrir si j'arrivais, par exemple, à Tombouctou. Je découvrirais la ville de Tombouctou par mon regard et par aussi mon expérience, par mon histoire, par tout un tas de choses, par ma subjectivité. Donc c'est éminemment subjectif, c'est pour ça que je ne peux pas créer un monde objectif, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt, je veux dire, parler de planétologie, enfin d'écrire uniquement ce qu'a fait Roland Lehoucq dans Exquise Planète, lui il décrit les mécanismes de la planète parce que c'est son boulot, c'est un astrophysicien, mais ce qu'il me dit à la fin, heureusement qu'il y a un regard humain dessus, parce que sinon c'est un peu vain tout ça, quoi. Donc c'est le regard qui est important, à mon avis.
Et l'odeur.
Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film qui s'appelle Galaxy Quest, qui est une merveille, je pense qu'il est diffusé les derniers films, où il y a les personnages qui vont chercher une boule de, je ne sais plus quoi, beryllium sur une planète totalement inconnue, donc ils se posent avec leur espèce de petite capsule spatiale, et donc le gars se prépare à ouvrir, il y a un type qui leur dit, mais t'es fou, tu sais même pas si l'atmosphère est là, et le type ouvre, et puis il y a l'air qui rentre, et fait, ça m'a l'air bien. Ben, c'est ça, en fait, vous voyez, le premier contact avec une planète, c'est... Ça m'a l'air bien. On n'a jamais une histoire, elle serait très courte, mais vous imaginez une histoire de science-fiction dans laquelle le type dirait, il ouvrit le sas et fut immédiatement écrasé par une gravité de machin, détruit par une atmosphère acide, etc. Fin de l'histoire.
Ça, quoi. Je l'ai fait.
Ça, t'as fait.
Dans une nouvelle, je l'ai fait, ça.
Mais c'est court quand même, c'est vrai.
Ouais, ouais, c'est court. Non, c'est la préparation qui est longue.
Ça peut être trop frustrant.
C'est une histoire à chute. Merci à vous en tout cas d'avoir participé. Merci à vous.
Il y avait une question.
Il y a une question encore. Voilà. On fait du rabat.
Bah, oui. Mais c'est par rapport aux personnes qui habitent ces planètes, en fait. Est-ce que c'est vous adaptez des êtres humains avec des caractéristiques terriennes qui vont peupler la planète, ou est-ce que c'est des humains qui ont des caractéristiques propres justement pour s'adapter? Parce que tout à l'heure, on parlait de la gravité qui est différente, qui agit sur les ours par exemple. Mais on imagine que si c'est des êtres
déjà sur Terre, vous avez des gens qui vivent à 4500 mètres d'altitude qui ont des poumons alvéolés différents des nôtres. Vous avez des gens qui vivent dans le désert qui ont un rapport à un type de peau, un rapport avec un système d'évacuation différent des nôtres. Déjà sur notre planète, il y a des phénomènes de différence telle d'un endroit à l'autre que vous avez des adaptations pour les populations qui ont vécu pendant longtemps. Certaines populations insulaires, il ne faut quand même pas oublier, vous allez à, moi ça s'appelle cette île où les gens sont très très grands, l'île américaine, une photo du rugby américain, elle est la NBA. Quoi? Comment ça fait enfin, bref, j'ai un ami qui est parti là-bas comme médecin pendant 2 ans à l'époque de son service militaire, et il disait, le premier accouchement dont il allait s'occuper, le gamin avait un diamètre de tête qui était très très au-delà des normes. Il a dit, merde, c'est un hydrocéphale, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Son copain qui était habitué, qui était médecin là depuis plusieurs années, il a dit, tu sais quand même que le bébé moyen, il pèse entre 5 et 8 kilos. Et que par conséquent, la taille de tête, c'est pas trop. En même temps, la taille, la dame en moyenne, elle fait 130 kg, et son diamètre de hanche, c'est 40% de plus que le nôtre. Donc c'est la même chose, mais en proportion, si vous voulez. C'est les. Comment ça s'appelle les,
ouais, je
trouve le nom. Enfin, c'est Tunisie. Et pareil, c'est une population qui est restée la même. Quoi?
Tonga.
Ce Tonga, on trouve dans ce genre-là, je sais plus, mais c'est. Enfin, bref, c'est une population qui est.
Samoa, Tonga.
Samoa, tiens, c'est Samoa. C'est Samoa. Mais le Samoa moyen, par exemple, quand le copain a eu à régler une fracture de clavicule, eh bien, nous, sur la clavicule, on a à peu près cette épaisseur de muscle, ce qui fait que pour écarter le muscle, pour remettre l'os en place, on a un écarteur qui ressemble à, je sais pas, vous savez, un abaisse-langue à peu près en métal. Eh bien, lui, là-bas, l'écarteur pour enlever le steak, c'était un démonte-pneu. C'est-à-dire un chat qui était grand comme ça, qui tenait à deux pieds. C'est pas pareil. C'est pas des gens. Or, ce sont des êtres humains. Parfaitement comme avec le même capitaine génie. Il y a des différences. Alors vous imaginez le rapport que peuvent avoir les gens au monde sur l'île de Samoa. Vous imaginez ce que ça peut donner par rapport à des gens qui vivent en altitude à 4500 mètres et qui respirent d'une façon complètement différente. Et vous adaptez ça à une planète. On ne peut pas imaginer d'être dans un environnement différent. L'environnement nous conditionne d'une manière telle, la vue de la lumière, les odeurs, le rapport à la gravité, la manière dont on bouge, etc. Tout ça nous conditionne de façon telle qu'il est impossible d'imaginer qu'on sera les mêmes une fois déplacé à ce moment-là. On n'arrive même pas à être les mêmes à se déplacer sur Terre d'un pays à l'autre pour peu que le pays soit quand même assez différent. On ne l'est pas. On est changé par ça. Donc imaginez sur la planète. Imaginez l'effet de génération après génération. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ça. Et de remettre en question des choses qui sont évidentes pour nous. Et de dire, tiens, par exemple, le fait d'aimer ses enfants est une évidence. Maintenant, il y a des planètes dans lesquelles le fait d'avoir à les manger de temps en temps est une chose totalement admise, parce que sinon, la planète elle-même ne survit pas. Ça peut être intéressant d'imaginer ça. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Ils ont même donné des recettes de cuisine, si ça intéresse.
on n'est pas loin de leur repas. On peut les applaudir une deuxième fois. Merci à vous. Merci à vous. Je vous applaudis.